Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope.
Un programme soutenu par Biovallée.
Merci d'écouter Erdiwa sur le 107.5 FM et Radio Saint-Ferréol sur le 94.2. Nouvel épisode Biotope, ceci en résonance avec le festival Écologie au quotidien du 19 janvier au 9 février à Die. Alors dans le cadre d'Écologie au quotidien, évidemment vous le savez, il y a un certain nombre d'animations, de débats et d'ateliers qui se tiennent voilà, pendant tout le festival. Et là nous intéresserons à le diaporama « Créer sa mare naturelle ». En votre présence, Hélène Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez la LPO Drôme.
Oui, la LPO Drôme, mais je suis aussi bénévole aux rencontres de l'écologie.
Ah bah, on va faire d'une pierre deux coups. Oui. Et Jean-Claude Rouchouze, que nos auditeurs connaissent bien. Ça va ?
Oui, très bien.
Bon, et alors, et vous, qu'est-ce que vous faites dans les rencontres de l'écologie ?
Moi, j'interviens au niveau de la biodiversité des ruisseaux, des rivières et des milieux humides du Diois.
Donc, c'est cette casquette-là ?
Voilà, le 28 janvier.
Ce qui va nous intéresser, c'est donc, vous l'avez compris, les zones humides, les milieux où il y a de la biodiversité. Est-ce qu'on pourrait commencer, Jean-Claude, par une petite situation du contexte diois ?
Bien, le contexte diois est intéressant au niveau biodiversité, parce qu'en fait, quand on étudie, il y a une grande biodiversité pour plusieurs raisons. La complexité de la géologie et des plissements montagneux qui ont découpé le diois en petites vallées, c'est des fois séparées les unes des autres, ce qui augmente la biodiversité, parce que l'isolement a tendance à créer des espèces endémiques, donc ça augmente la biodiversité.
C'est-à-dire que chaque petite vallée aurait
voilà,
aussi...
peut avoir des plantes un peu particulières, voilà, c'est favorable à la variété. Le cloisonnement du relief est favorable à la variété des plantes, et puis aussi des animaux. Et puis, il y a un réseau hydrographique dense, hein, avec de nombreux ruisseaux, la Drôme étant bien sûr le cours principal, mais il y a de nombreux affluents. Et puis, il y a aussi, ça on le connaît moins, mais quand même, aux environs d'une cinquantaine d'étangs, de pièces d'eau, de zones humides, plus ou moins étendues. Tous les petits ruisseaux, plus une cinquantaine de pièces d'eau closes sur le Diois. Cela explique qu'il y ait une biodiversité importante.
Ah, pour avoir une petite résonance avec nos amis du Val-de-Drôme qui nous écoutent puisqu'on partage cette biotope avec Radio Saint-Ferréol, est-ce que vous connaissez aussi ce qui se passe un petit peu plus bas ? On connaît évidemment les ramières.
Hein. Voilà. Il y a la réserve des ramières qui est extrêmement importante avec énormément d'oiseaux.
On peut noter aussi les cours d'eau autour de Soux, de la forêt de Soux qui doit
voilà,
être.
Voilà, la forêt de Soux qui est une exception au niveau géologique. Hein, c'est un synclinal perché unique en Europe, enfin, l'un des plus beaux synclinals perchés d'Europe. Il y a les gorges d'Omblaise avec aussi une rivière qui est intéressante, hein, la Gervanne. Hein. Voilà, donc de ce côté-là aussi, il y a beaucoup à apprendre.
Qu'allez-vous nous montrer lors de ce diaporama Créer sa mare ? On va effectivement parler de ces zones humides, plus particulièrement. Hélène, peut-être ?
Bah déjà, il y a une personne de Terre Vivante qui va venir faire l'essentiel de l'animation pour la création de la mare, puisque à Terre Vivante, c'est quand même des spécialistes. Et ensuite, moi, je parlerai de la mare que nous avons créée à l'école Chabestan il y a 9 ans maintenant. La façon dont on s'y est pris et ensuite de l'état actuel et de son devenir.
Avant de rentrer dans le détail, quel est l'intérêt de créer sa mare ?
Ah, ça dépend de l'endroit déjà, moi je trouve. Dans un jardin, par exemple, c'est absolument extraordinaire de créer une mare parce que ça favorise la biodiversité. Les gens qui font de la permaculture, par exemple, ils préconisent de créer des mares dans les jardins.
Et quel type de biodiversité, justement ? Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant de créer de la biodiversité, certes, mais dans un jardin,
au niveau de la faune, par exemple, il y a plein de petites bêtes. Moi, j'appelle ça les petites bêtes de l'eau. Il y a plein de choses dans une mare. Il y a des prédateurs. Il va y avoir, par exemple, des amphibiens qui vont venir dans le jardin pour manger les insectes qu'on appelle nuisibles. Mais nous, on n'appelle pas ça nuisibles, mais indésirables, on va dire.
Ce qu'on ne veut pas dans son jardin.
Voilà, ce qu'on ne veut pas. Donc on va dire indésirable. Mais les moustiques, c'est très utile parce que ça donne de la nourriture aux oiseaux. Et les oiseaux sont très utiles aussi dans le jardin. Donc il y a tout un équilibre qui se crée. Et puis, c'est intéressant en plus au niveau, pour moi, connaissance personnelle. Parce que c'est passionnant ce qui se passe dans les mares. C'est vraiment passionnant.
Jean-Claude, peut-être pour compléter, l'intérêt de ces zones humides.
Il y a plusieurs intérêts. Il y a un intérêt touristique, hein, bien sûr. Le marais des Bouligons a été aménagé avec un circuit touristique. Il y a un intérêt, quand les zones humides sont assez importantes, de rôle d'éponge et de diminution de la gravité des crues. Un autre intérêt... C'est vrai, surtout par exemple pour le marais des Bouligons, c'est de soutenir le débit d'étiage.
Alors, pardon, quel est ce terme ?
C'est-à-dire qu'en été, la Drôme peut s'assécher. Hein, c'est une rivière dont le débit peut diminuer considérablement en été. Et ce qui soutient le débit dans le Haut-Diois, c'est en particulier le marais des Bouligons.
C'est-à-dire qu'il se vide ?
Voilà, c'est une réserve d'eau qui va se vider peu à peu et alimenter le débit du cours d'eau au mois d'août. Voilà, donc ça c'est un autre intérêt des zones humides. Et puis il y a la biodiversité, le fait qu'il y ait des animaux particuliers, des libellules particulières, une variété des écrevisses, voilà, il y a ça aussi.
Hélène ?
Oui, moi j'ajouterais qu'en ce moment, on voit dans les médias, à la télé par exemple, qu'il y a des inondations un peu partout dues aux importantes pluies. Et si on avait préservé plus de zones humides, il y aurait sans doute moins d'inondations. J'ai entendu ce matin qu'ils prévoyaient une crue centennale sur le bassin parisien, Paris et les environs, et la même crue qu'en 1910. Et ça sera complètement catastrophique sur le plan humain. Alors que si on était arrivé à préserver les zones humides qu'il y avait... Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de crue, mais ça serait sans doute beaucoup moins important.
Le Zouave va donc de nouveau avoir de l'eau jusqu'aux genoux, c'est ce qu'on
dit. Et pire.
Et pire, peut-être jusqu'au cou. Bon, eh bien voilà, soutenons nos amis parisiens. Oui, j'aimerais revenir sur ce terme d'éponge. Toutes ces zones humides en général, et puis on pourrait parler en résonance nationale du très fameux aéroport qui sera fait sur une très grande zone humide, elles ont vraiment ce rôle de venir comme ça réguler, on pense à la Camargue aussi, de réguler l'eau.
Oui, il y a vraiment un rôle d'éponge. C'est très, très net pour le marais des Bouligons. La Drôme, au mois d'août, peut s'assécher à peu près 3 km en aval de Val-Drôme et sur 4-5 km de distance. Donc, ça peut être complètement à sec. Et on s'aperçoit qu'à partir du marais des Bouligons, de l'exutoire du marais des Bouligons, ce n'est plus jamais à sec. Donc, toute la zone du Grand Lac, qu'on appelle le Grand Lac, hein,
Bien qu'il
ait disparu,
Et qu'on
est toujours alimenté en eau. La Drôme n'est jamais à sec dans ce parcours-là. D'où l'intérêt, bien entendu, pour l'irrigation aussi.
Et peut-on expliquer pourquoi cette zone est devenue humide ?
Parce que c'est ce qui reste de l'ancien. Le Claps est un éboulement rocheux qui s'est produit en 1442. Donc il y a eu un vrai lac qui avait plus de 50 mètres de profondeur.
Hein,
la Drôme était sur plus de 12 km de distance.
Ouais.
Et puis ce lac s'est comblé peu à peu. Et ensuite, les moines l'ont asséché complètement pour remettre en culture. Hein. Donc ce lac n'existe plus depuis le 19e siècle. Il reste des témoins de ce lac, donc qui sont la zone humide du marais des Bouligons, qui a été préservée et qui est maintenant classée, protégée, zone naturelle protégée, avec un circuit de randonnée autour de cette zone.
Alors avant qu'on explique vraiment comment est-ce qu'on peut faire sa mare, j'aimerais qu'on comprenne pourquoi est-ce que dans certains endroits, pourquoi est-ce que c'est cette zone-là du lac, le marais des Bouligons, qui est resté un marais et pas d'autres secteurs. Est-ce qu'il y a des zones géologiques qui favorisent le stockage de l'eau ? Pourquoi l'eau se stocke là ?
C'est tout à fait lié à la géologie. C'est lié à l'existence de marnes et d'argiles imperméables. Donc dans les zones marneuses, qui sont abondantes dans le Diois, on peut trouver des mares et des étangs. Tandis que dans les zones calcaires, comme le sommet du Glandas, ben, il n'y en a pas. Parce que l'eau s'infiltre dans le calcaire et puis elle ressort beaucoup plus bas, sous forme de résurgence. C'est vraiment l'existence de ces marnes. Il y a les marnes noires qui sont à basse altitude, les marnes blanches qui sont à moyenne altitude et les marnes bleues qui sont en haute altitude. Donc à chaque niveau marneux, on peut avoir des zones humides. Marnes et zones humides sont liées.
Alors pour faire sa mare, comme à Chabestan, Hélène Bernard, a-t-on besoin d'être sur un sol marneux ? Ou est-ce qu'on met une bâche et hop, c'est parti?
Oui, bah, si on n'a pas besoin de mettre de bâche, c'est l'idéal, mais enfin, c'est vrai que c'est rare quand même. Donc, effectivement, on met une bâche. On commence par creuser, déjà, parce qu'il vaut mieux avoir un trou.
À quelle taille minimum pour une mare qui marche bien?
Il
n'y
a pas de taille minimum, elle peut faire 1 mètre sur 1, et même 50 cm. Si on a un petit coin dans un fond de cour, on peut très bien faire une mare. Il y aura toujours quelque chose qui viendra dedans, hein, de toute manière. Voilà, donc on creuse, on met une bâche. Ensuite, on bloque la bâche et on fait en sorte qu'elle tienne bien. On met du sable d'abord avant pour ne pas percer la bâche, parce que si le sol est caillouteux, il risque d'y avoir des trous. Ensuite, on peut amener un peu de terre, oui, au fond, mais autrement, elle viendra toute seule. Hein. Si on ne veut pas intervenir, on n'est pas obligé d'intervenir. À Chabestan, par exemple, on avait amené des végétaux pour que ça aille un petit peu plus vite, parce qu'avec les enfants, si ça ne va pas vite, ils se retrouvent au collège avant d'avoir vu quoi que ce soit. Donc, on avait mis des végétaux. On est allé chercher des végétaux chez un spécialiste.
Quel type de végétaux pour que ça aille plus vite?
Alors, on a mis des joncs, des... J'ai plus en tête.
D'où cette raison de mettre un peu de terre au fond pour que.
Voilà. Et il faut vraiment mettre des végétaux locaux, bien sûr. Hein. Il ne faut pas aller chercher des choses exotiques comme on voit dans certains bassins, dans des parcs.
Est-ce que le fait de mettre des végétaux, ça va vraiment plus vite? C'est-à-dire que la mare prend vie en combien de temps?
Oh, ça va assez vite. De toute manière, elle prend vie en, je dirais, quelques jours selon la saison, parce qu'il y a déjà des insectes qui vont arriver. Des dytiques ou des notonectes ou des gérisses, par exemple, même sur un bassin, même s'il n'y a pas de végétaux. Les gérisses, c'est ce qu'on appelle les araignées d'eau. C'est ces oui. petites insectes qui marchent sur l'eau. Ce n'est pas des araignées, c'est des insectes. Mais ils arrivent très, très vite. Dès qu'il y a de l'eau, on ne sait pas comment ils trouvent. Même les dytiques, qui sont quand même des gros insectes, ils arrivent à trouver. Ils le voient du ciel. Moi, j'ai une fois, j'étais en train de... C'est une anecdote, mais j'étais en train de faire refaire ma terrasse. Donc, il y avait une bâche noire brillante. Et il y a un gros dytique qui a plongé sur ma bâche parce qu'il a cru que c'était une mare. Il a cru que c'était de l'eau. Donc, les animaux, ils arrivent facilement tout seuls. Mais après, ça facilite. S'il y a les végétaux, ça viendra plus vite.
Alors, continuons sur cette expérience de Chabestan. Le but, là, c'était donc que les enfants voient assez rapidement tous ces insectes. Pourquoi ?
Ah ben, au niveau scientifique, c'est fabuleux. Ça. Moi, j'étais enseignante à Chabestan. Hein. C'est pour ça que j'ai mené le projet avec Écologie au quotidien. Au niveau, par exemple, au niveau des batraciens, hein, grenouilles, crapauds, enfin, essentiellement les grenouilles, c'est extraordinaire de voir l'évolution de l'animal, la transformation entre l'œuf, ensuite la larve qui est le têtard, et puis après la transformation en adulte. Au départ, il respire sous l'eau, ensuite il sort de l'eau, il a une respiration aérienne. Enfin, au niveau scientifique, c'est extraordinaire. Au niveau des chaînes alimentaires aussi, c'est absolument extraordinaire. On voit qui mange qui, quels sont les prédateurs, ceux qui sont plutôt végétariens et qui servent de nourriture, les têtards que tout le monde mange, enfin les larves de moustiques aussi. C'est les transformations entre la vie sous l'eau et la vie aérienne en plus des insectes, selon le stade.
Alors, s'il y a trop de terre, on peut quand même observer sous l'eau. Comment ça se passe?
Alors, on n'observe pas sous l'eau. Ce qu'on fait avec les enfants, c'est qu'on a des épuisettes et on pêche. Donc, on a des épuisettes, on a des bacs. Hein, on ramasse la vase du fond. Et puis on met tout dans le bac et ensuite on observe, on a des guides d'identification et on observe tout ce qu'il y a. Et ensuite en classe, c'est travailler avec les enseignants.
Donc elle est située où cette mare?
Alors elle est située à côté de l'école maternelle, dans le jardin de l'école maternelle, entre l'école et la voie ferrée.
Donc il y a une voie ferrée, il y a un grand grillage, il y a tout ce qu'il faut. Comment les grenouilles sont venues?
Les grenouilles ne sont pas venues.
Ah.
Là, les grenouilles ne sont pas venues. Par contre, nous, on a créé avec mon mari des mares à plein d'endroits différents, en forêt ou moi, j'en avais créé une dans l'école où j'étais avant. Et les grenouilles peuvent arriver. Si on est à côté d'un cours d'eau, elles reviennent, je crois. Alors là, ça serait à vérifier. Mais je crois qu'elles reviennent pondre à l'endroit où elles sont nées. Donc, s'il y a des endroits pas très éloignés, elles reviennent. Mais là, à Chabestan, il n'y a pas eu de grenouilles. Et il faut savoir que tous les batraciens sont protégés, donc on ne peut pas faire d'introduction sans autorisation.
Et on peut comprendre pourquoi elles ne sont pas venues ?
Ben parce qu'il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas à proximité d'autres populations qui auraient permis qu'elles puissent venir là. Mais avec le temps, peut-être qu'elles auraient pu venir. Ce qu'il y a, c'est que la mare est en très mauvais état parce que le grillage n'était pas assez haut et elle a été percée.
Alors, on termine sur une note un peu négative, malheureusement.
Non,
ça va, ça se refait.
On va en faire. Non, il faudra la déplacer certainement parce qu'il y a un projet de construction d'agrandissement de l'école à cet endroit-là. Donc, on avait un projet de la réparer et finalement, on se dit qu'il faudra la déplacer plutôt. Donc, on prendra ce qu'il y a dedans et puis on la fera à un autre endroit.
Avec Écologie au quotidien, vous les avez cités, ce projet était monté, vous étiez enseignante, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer dans le programme pédagogique de toutes les écoles ?
Ah oui, moi je le préconise vraiment, c'est passionnant.
C'est pas inscrit, c'est pas quelque chose qui se fait de manière un peu systématique, parce que ça semble tellement simple et...
Je pense pas, enfin je suis plus enseignante, ça fait quelques temps que j'ai arrêté, mais je pense pas que ça se fasse énormément, et pourtant c'est extraordinaire. Dans l'école où j'étais avant, les gamins, au lieu d'aller jouer en récré, ils allaient à la mare pour voir ce qui se passait. C'était vraiment passionnant.
Quel retour vous font les enseignants de l'école à Chabestan ?
Je ne sais pas, parce qu'actuellement, elle n'est plus du tout en activité. Elle est complètement... elle est dans son coin, elle vit sa petite vie. Elle a été envahie aussi au niveau végétaux, il n'y a plus grand-chose. Sans doute du fait qu'elle s'était vidée. Mais c'est vrai que quand on a travaillé dessus, c'était passionnant. Et puis on a travaillé aussi sur les amphibiens. Et c'est vrai qu'on avait installé des choses dans l'école et c'était vraiment intéressant.
Jean-Claude Rouchouz, vous, qu'est-ce que vous allez nous présenter ? Ça, on ne l'a pas dit dans le cadre de ce diaporama.
Moi, c'est la présentation générale de la biodiversité du Diwa. Seulement pour les rivières, les ruisseaux et les milieux humides. Donc je parlerai des animaux, des végétaux, et puis un peu des paysages, parce qu'il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une géodiversité, la diversité géologique et géographique. Hein. Il y a géodiversité et biodiversité. Et au niveau de la biodiversité, c'est donc tous les animaux que l'on peut observer et qui existent dans les rivières, les ruisseaux et les zones humides du Diwa. Donc ça part des mammifères avec le mammifère emblématique du Diwa qui est le castor, bien sûr.
Hein. Qu'on aimerait bien voir dans sa mare.
Voilà, le plus gros.
Non.
Hein, le plus gros animal aquatique du Diwa, hein, puisqu'il arrive à faire 30 kilos et plus. Hein. Et ça va jusqu'aux microbes, jusqu'aux petites bêtes comme les rotifères, comme les tardigrades, et puis les insectes, il y a les mollusques, il y a les crustacés, et il y a les poissons. Au niveau des poissons, on a, dans les eaux courantes, on a 8 espèces différentes de poissons dans le Diwa. Hein. Et dans les pièces d'eau, il peut y avoir des espèces supplémentaires, mais qui ont été introduites. Hein, par exemple des carpes, des perches soleil. Donc on doit tourner à une quinzaine d'espèces différentes sur l'ensemble des zones humides. Alors il y a aussi des zones humides qui sont trop petites, dans lesquelles on n'a pas introduit de poissons. Donc où là on a simplement une faune d'insectes et puis de plantes aquatiques. On a, moi je pense, aux environs de plus de 300 espèces de plantes liés au milieu humide et qui appartiennent à peu près à 44 familles différentes de plantes. Donc il y a aussi l'intérêt botanique des zones humides et des ruisseaux avec des espèces qui sont plus rares comme l'orchidée palustre, la glaucienne jaune. Voilà, il y a aussi un intérêt au niveau botanique.
Nous parlions en début d'émission de ce découpage que les vallées avaient enclavé et permis le développement de certaines espèces. Sont-elles caractéristiques aussi au lieu ou est-ce qu'elles se développent dans d'autres endroits en France, par exemple, qui auraient les mêmes caractéristiques ?
On a quelques espèces endémiques. C'est à peu près, disons, sur les 300 espèces qui sont liées au milieu humide, on doit avoir entre 5 et 10% d'espèces endémiques, c'est-à-dire que l'on ne trouve que dans le Diwa. Elles sont rares, elles sont protégées, elles sont peu connues souvent, hein, et puis quelquefois sont des petites espèces discrètes, des graminées exceptionnelles, voilà. Donc oui, il y a des espèces endémiques. Au niveau des animaux, comme les animaux se déplacent, on a quand même moins d'endémisme oui. qu'au niveau des végétaux. Hein. Mais on a quelques espèces qui sont un peu particulières, un peu, on ne peut pas dire qu'il y ait des grandes espèces endémiques. Mais par exemple, un poisson comme le barbeau méridional, c'est un poisson que l'on ne trouve que dans le sud-est de la France, et dans le Diois, on ne le trouve que dans la Roanne et dans la Brette.
Puis il y a ce fameux poisson dans, dans les ramières.
Dans les ramières, il y a l'apron, qui est un poisson qui est très rare,
très menacé d'ailleurs.
Très menacé et qui existe seulement au niveau des ramières et qui remonte probablement jusqu'à Saillant. Mais il est rare et on ne le pêche pas parce que c'est vraiment un poisson de mœurs nocturnes. Mmh. Dans le même ordre d'idées, on a le chabot qui est un petit poisson que l'on n'attrape pas à la ligne, qui est de mœurs nocturnes aussi, qui est un poisson assez curieux avec le mâle qui est le seul à garder les œufs et que l'on trouve dans le bassin du Bèze. Donc, alors au niveau des amphibiens, je pense qu'il y a aussi quelques amphibiens qui ne sont pas endémiques, mais qui sont quand même un peu représentatifs du sud-est de la France.
Hein. Voilà. Et puis, on peut reciter aussi les fameuses écrevisses. Mais
c'est... Et l'écrevisse à pattes blanches, hein, mais qui n'est pas endémique du Diois. On la trouve ailleurs, cette écrevisse. On la trouve dans les Hautes-Alpes.
Mais qui est préservée dans ces zones.
Elle est c'est une espèce préservée que l'on ne peut pêcher que 2 jours par an.
Pour terminer cette émission et refaire de nouveau un parallèle entre ces zones humides dont nous parlons et la mare, créer sa mare naturelle, en plus c'est le terme qui est employé. Toutes ces zones humides vivent, circulent, l'eau passe et s'en va. La mare qu'on a fait au fond de son jardin, c'est de l'eau qui stagne. Comment ça marche en fait, Hélène Bernard?
Oui, elle n'est pas obligée de stagner aussi. On peut avoir quand même une arrivée d'eau. Il y a des canaux par exemple à Die. Si on parle de Die, donc on peut arriver à faire une arrivée et un départ, mais enfin, il ne faut pas que ça soit trop courant. Et autrement, on compte sur la pluie.
Pour renouveler l'eau.
Pour renouveler l'eau, oui. On évite l'eau du robinet, encore qu'à Die, elle est pas, je crois qu'il y a plus de chlore maintenant dans l'eau de Die. Donc, et puis c'est l'eau du Vercors. Voilà. Et on va chercher de l'eau dans la Drôme, par exemple, ou si vraiment ça sèche trop. Mais ça fait partie de la vie aussi. C'est ce que disait Jean-Claude sur les étiages. Ben, les mares, ça peut sécher un peu. Pas trop quand même, et puis après revenir.
Oui, il n'y a pas de problème de saturation de l'eau, une sorte d'algue qui viendrait se développer parce que plus assez d'oxygène, ou ce qu'on voit des fois justement dans la Drôme quand elle n'a pas été bien étiée.
Mmh. Ben, les plantes servent à la phytoépuration à ce moment-là. C'est vrai qu'une mare qui n'aurait pas de plantes du tout, sans doute qu'il y aurait de l'eutrophisation de l'eau. Mais avec les plantes en général, non. En tout cas, la mare de Chabestan, il n'y a plus beaucoup d'eau, mais elle est encore en état.
Non, parce que les plantes, par photosynthèse, dégagent de l'oxygène. Donc, elles entretiennent la vie dans une mare.
En fait, il n'y a pas grand-chose à faire.
On laisse l'écosystème s'installer progressivement. Il y a certainement une évolution. C'est-à-dire à partir du moment où on crée la mare... Et puis sur 1, 2, 3 ans, on doit pouvoir observer une variation dans la faune des insectes. Il y en a qui sont ce qu'on appelle des espèces pionnières qui s'installent au début de la mare. Et puis quelquefois, ces espèces se font remplacer par d'autres. Au bout d'un moment, en général, si la mare ne s'assèche pas, il y a une stabilisation de l'écosystème qui se fait. Et ensuite, ça reste stable sur des dizaines d'années.
Aucune espèce ne prend l'ascendant sur une autre végétale ou animale.
Ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle des espèces invasives. C'est quand même rare. Bon, la seule espèce invasive que l'on cite dans le Diois, mais qui n'est pas une espèce de milieu humide, mais on peut quand même la trouver près des cours d'eau, c'est l'ambroisie, hein, donc, qui pose des problèmes parce qu'elle provoque des allergies. Graves. Les lentilles d'eau, par exemple. Il y en a très peu. Il y a un seul endroit, je crois, dans le Diois, où il y a des lentilles d'eau. Mais c'est une toute petite plante minuscule. Mais dans le bassin parisien, par exemple, elle peut proliférer complètement et recouvrir la totalité de la mare.
Voilà. Donc, c'est très beau, ça fait un bel effet.
Elle coupe la lumière pour tout ce qui est en dessous. Et là, la mare est en mauvais état. Donc, la prolifération des lentilles d'eau peut être un problème. Mais ce n'est pas un problème du Diois.
Eh ben, on est à l'abri.
Moi, je voudrais dire que la nature a existé sans l'homme depuis des millions d'années, qu'elle existera sans doute sans l'homme après, et qu'elle s'autorégule toute seule. Donc, les lentilles d'eau, je crois que c'est... Il y en a beaucoup dans le Marais Poitevin aussi. Je crois que c'est dû aux engrais qui sont dus aux cultures et qui font que l'équilibre...
Donc, la mare est pourrie. Donc, l'équilibre elles essaient déjà de récupérer.
Voilà. L'équilibre est rompu. Donc, du coup, elles doivent trouver une nourriture qu'elles ne trouveraient pas autrement. Mais si on laisse faire la nature, elles se dérouillent très bien, toutes seules.
Et donc, et si ça se trouve, elles sont donc en train de renouveler l'eau tellement bien qu'au bout d'un moment, elles vont mourir et puis ça repassera autre chose.
Non, le seul problème des mares et des étangs, c'est que bien sûr, la boue se dépose peu à peu, peu à peu, peu à peu. Oui. Et au bout d'un moment, l'étang, s'il n'est pas vidé, tout se colmate et naturellement, ça disparaît. C'est plus un étang où on peut avoir des poissons, ça devient un marécage. Et puis au bout d'un moment, le marécage disparaît aussi, une évolution naturelle. Parce qu'il y a un problème d'entretien quand même. Si l'étang n'est pas entretenu, s'il n'y a pas une bonde pour le vider de temps en temps, il se comble. Surtout s'il y a une arrivée d'eau.
Et on en revient à ce qui s'est passé dans le très fameux lac au-dessus du Claps. De toute façon, il était déjà quasi rempli. Voilà. Il fallait finir d'assécher ce marécage.
Ouais. Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Hélène Bernard, concernant la mare de l'école Chabestan, est-ce que vous pourriez nous dire qui a porté ce projet ?
C'est l'association Écologie au quotidien qui a porté le projet.
Et vous-même ?
Mais moi, je l'ai accompagnée en tant qu'enseignante, j'ai fait le lien avec l'école.
Écologie au quotidien est venue proposer cela à l'école ou vous aviez quand même une demande ?
Non, Écologie au quotidien est venue le proposer à l'école.
Quelle était l'action qui vous a été proposée à ce moment-là ?
De créer une mare au sein de l'école, de façon à pouvoir avoir des projets pédagogiques après, au niveau de tout ce qui est de la biodiversité et des équilibres et des évolutions de la faune et de la flore. Par rapport au programme scolaire, si ça n'a pas changé depuis quelques années, on travaille sur les différentes formes de vie, de reproduction aussi. Beaucoup au niveau de la faune, donc on va travailler sur les batraciens, le fait qu'ils pondent des œufs. Ensuite, l'évolution dans le temps, le fait qu'ils soient en milieu humide et puis qu'après, le batracien sorte de l'eau, devienne d'abord une larve et ensuite une grenouille. Et pareil pour les insectes.
Y a-t-il eu des points de blocage ou des difficultés pour monter ce type de projet ? Comment c'est reçu par l'Éducation nationale, par exemple ?
Non, il n'y a pas eu de blocage. En plus, Écologie au quotidien avait trouvé les financements.
Même l'achat des végétaux que vous avez mis dedans, tout ça, c'était...
Tout a été financé. On a loué un engin, une petite pelle mécanique pour faire le trou. La bâche a été achetée, les végétaux... Voilà. Et je crois même, si je me souviens bien parce que ça a 10 ans, qu'on a eu des financements pour ensuite emmener les élèves visiter le marais des Boligons, les mares du col de Carabès, enfin les milieux humides du Diwa.
Et Écologie au quotidien fournit donc un projet clé en main. Est-ce qu'ils le font encore ? L'ont-ils fait à d'autres classes ?
Non, on n'a pas refait ce genre de projet depuis parce que c'était financièrement, je pense, enfin je ne sais pas combien ça a coûté, mais c'était quand même quelque chose d'important. Là, on travaille moins avec les scolaires actuellement.
Bon, mais si on vous demandait...
Je l'ai en projet, mais il faut y consacrer beaucoup de temps et je fais pas mal d'autres choses. Donc, mais c'est vrai que j'ai un projet de redémarrer avec des scolaires. Moi, personnellement, de temps en temps, je retravaille avec des classes.
Ce que je peux dire aussi, c'est que ces zones humides ont aussi un intérêt au niveau du collège et du lycée.
Ça, c'est l'ancien professeur de SVT, Jean-Claude Rochouz, qui nous dit ça. C'est dans le cadre du programme, donc.
Ah oui, tout à fait.
Je me rappelle qu'on disséquait des grenouilles à une époque.
Bah oui, il y avait la dissection des grenouilles.
Ça, c'est terminé, les dissections. Par contre, tout à l'heure, j'ai pas parlé des chaînes alimentaires, ça c'est absolument extraordinaire dans la mare. Tout le travail sur les chaînes alimentaires, on voit tout en direct.
La réussite, bon bah on l'a expliqué, l'échec c'est peut-être qu'aujourd'hui elle est plus très active, y en a-t-il d'autres ? Un petit bilan comme ça, 10 ans après.
La réussite c'est que ça a intéressé plein de gamins je pense, y en a qui m'en parlent encore des fois de ce genre de choses. Échec, peut-être qu'il aurait fallu qu'il y en ait plus qui y aillent et puis que le suivi soit plus important quand même.
Plus qu'il y aille, c'est-à-dire que ce soit ouvert à d'autres écoles, par exemple
Que ça soit aussi... C'était pas vraiment fermé non plus. Mmh. Elles auraient pu venir. On aurait dû effectivement passer plus l'information, qu'il y ait plus d'enfants qui puissent y aller. J'avoue que quand on est dans une classe, on a plein de choses à faire. Malheureusement, il n'y a pas que la SVT. Ouais. Et du coup, on est pris par le temps. Et puis ensuite, comme elle a été quand même abîmée, du coup, maintenant, j'ai fait un inventaire au mois de novembre et il reste plus tellement de choses dedans.
Vandalisée ou c'est
ça ? Elle a été vandalisée, la bâche a été percée par des personnes qui sont passées par-dessus le mur et qui sont amusées.
Ça, c'est un échec. Qui contacter pour développer ce type de projet ? Parce que là, ça va donner envie à plein de gens, vous allez voir.
Ça peut être écologie quotidien, ça peut aussi être Terre Vivante qui travaille beaucoup là-dessus et qui travaille beaucoup avec des scolaires.
Terre Vivante, c'est un projet, un gros centre d'expérimentation qui est sur la commune de Mins,
il me semble,
dans le Trièves, et qui donc a développé plein de choses, on va dire, dans le milieu naturel, l'intervention humaine, l'habitat, enfin tout, et puis évidemment l'écologie.
Moi j'y suis allée deux ou trois fois avec ma classe, lors de classes vertes ou à la journée, et il y a des outils en plus de détermination, ils ont ils sont vraiment un très bon travail là-dessus auprès des scolaires. Alors je pense qu'ils continuent. Ça fait quelques années que je n'y suis pas allée, mais je suppose.
Capsule.
Jean-Claude Rouchouz, Hélène Bernard, merci pour cette présentation de votre atelier Diaporama, créer sa mare naturelle dans le cadre d'écologie au quotidien. Et à la prochaine.
Eh bien, merci. Voilà. Merci à vous.
Au revoir.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.